Vous êtes sur RTL. Vivre ensemble.
RTL. 14h, 15h30. Le bon dimanche chaud. Avec Bruno Guillon.
Le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau du bon dimanche chaud. C'est ce qu'on vous propose maintenant, les meilleurs moments de l'émission du dimanche sur RTL. Bienvenue.
Lundi matin, c'est pénible, il fait froid, il faut se lever, il faut aller bosser. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le dimanche après-midi. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
Marc Jolivet fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors, je le disais, préparez votre trompette, puisque dans ce nouveau spectacle que vous allez jouer dans quelques jours, Salle Gaveau, là, les 17 et 18 à Paris, et cet été, au mois de juillet, à Avignon, eh bien, vous êtes accompagné de 4 musiciens, mais vous jouez vous-même de la trompette.
Absolument.
Alors, moi, je vous propose l'interview trompette. C'est-à-dire que je vais vous donner des affirmations, ok, et vous allez me répondre, mais vous allez me répondre en jouant un air de trompette. Alors, si vous êtes d'accord, bah, vous jouez un air un peu enjoué. Okay. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous jouez un peu un canard, quoi. Vous faites un truc un peu pourri. D'accord ? En fait, vous me répondez en musique.
Allez.
On y va ? C'est parti. On est dimanche, c'est le premier tour des législatives. Alors, sans rentrer dans les considérations politiques, est-ce qu'on va voter ? Très bien. Et si jamais il y a un changement, est-ce que vous accepteriez un poste de ministre au prochain gouvernement ? Reprendre votre carrière, cher Marc Jolivet, au début, pour ne faire que de la musique au lieu de l'humour. Je rappelle quand même que votre premier succès, ça a été un disque qui s'appelait Le Fils d'Hitler. Vous pouvez tenter Le Fils de Poutine en 2022.
La fille de Poutine.
Ou La Fille de Poutine.
La Fille de Poutine et Le Fils d'Hitler, youpipi.
Refaire un projet artistique avec votre frère Pierre. Magnifique, garde à vous. Refaire de la scène, mais vraiment tout seul. C'est-à-dire sans musicien derrière vous, il n'y a que vous. Ouais. Pas chaud bouillant. Hein. Votre fille, Camille, vous dit qu'elle veut monter seule sur scène. Vous aviez joué tous les deux en 2018, hein, c'était pour ADN.
Et alors ma fille, après ADN, a dit « Papa, j'aime pas ça ».
Ah ouais ?
Je n'aime pas ça, j'ai pas envie d'être actrice. Donc le spectacle s'est arrêté après ça.
Marc Jolivet, interview trompette, refaire de la télé.
Mais faut pas qu'on m'emmerde.
Très bien.
Donc je referai pas de télé.
Voilà. Et enfin, Marc Jolivet, prendre sa retraite.
Jamais.
Et pour notre plus grand plaisir, c'est Marc Jolivet qui fait son bon dimanche chaud sur RTL.
Sur le site de l'établissement français du sang.
Le bon dimanche chaud sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et Fourchette d'or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
Dans un jardin de l'hôtel Saadi à Marrakech, ce sont les Marrakech du rire. Notre invité spécial, c'est Jamel Debbouze.
Yo.
Il y a Ilyes Jadel et merci d'applaudir celui qui vient de nous rejoindre, Maxime Gasteuil.
Bonsoir. Bonjour.
Comment ça va, Maxime ?
Super.
Tendu ?
Non, très heureux.
C'est vrai ?
Ouais.
Première fois au Marrakech du Rire ?
Première fois.
Ça fait quoi ? Lui aussi découvert avec le Jamel de Comedy Club, ouais. Jamel ?
Ben, Maxime Gasteuil, ça fait très longtemps qu'on le connaît, ouais. Maxime Fauteuil, il m'appelle, Jamel.
Pourquoi ?
Parce que ça rime et c'est plus facile.
Ça s'est passé comment la
Maxime
première
Maxime Fauteuil ?
C'est vrai.
La première rencontre avec Jamel, ça s'est passé comment, Maxime ? Et quand on débarque de province et qu'on tombe face à Jamel Debbouze, on réagit comment ?
Ben, c'est Zidane.
Ouais.
Donc, tu vois.
Ah bon. Ouais,
non mais c'est vrai, c'est tu vrai, vois, pour nous, j'ai vu une interview d'Olivia qui parle de Jamel, il a raison, il a ouvert un truc qu'aucun humoriste avant lui a fait, c'est-à-dire qu'il nous a fait comprendre que c'était possible, qui que tu sois et d'où que tu viennes, donc on a essayé, tu vois, et ça a plutôt marché, en tout cas on est là, donc on est très fiers, tu vois.
Mais ça se passe comment, Jamel ? Parce qu'il y a souvent le cliché des producteurs où on dit, tiens, bah vas-y, fais-moi rire, t'as 10 minutes. C'est quoi en fait l'exercice ? C'est un peu ça ? C'est-à-dire que vous venez jouer sur la
Jamel,
scène ouverte ?
Il vient quand il commence à sentir par les gens avec qui il bosse que les noms sortent, tu vois.
Ouais.
Et nous, on va se tester en fait. Donc, on passe à la Deep Jam le mardi, et puis tu passes. À côté de ça, tu joues ailleurs.
Ouais.
Puis après, t'as des offres de. Tu veux faire Canal?
Ouais.
C'est chaud. Ouais. Et là, Marrakech du rire. Et le premier article que j'ai sur mon spectacle, c'est dans le Figaro, et c'est Jamel Debbouze qui dit une petite phrase juste comme ça en 2012.
Ouais. Mais qui fait genre.
Repéré chez Jamel.
Il fait genre, je m'en souviens à peine, mais c'est accroché dans sa chambre en fait.
Je dors chez Jamel depuis 5 ans. Voilà. J'ai une chambre chez Jamel.
Et ça se passe comment pour les artistes du Jamel Comedy Club? Est-ce qu'on se pousse dans l'escalier pour pouvoir passer devant les autres?
Non, regarde, l'entente, t'as du tout croisé tout le monde. Tout le monde est euphorique, tout le monde a envie de se tirer vers le haut, tout le monde a envie de s'investir et s'impliquer pour faire le meilleur des spectacles, des galas et tout. Hier soir, c'était une folie.
Ouais.
Ce soir, je pense que ça va
brûler. Parce que hier soir, en fait, ça s'appelle le Marrakech Comedy Club. En fait, c'est un peu tous les talents que vous avez découverts dans le Jamel Comedy Club qui viennent se présenter sur la scène des Marrakech du Rire.
Ouais. On est très frustrés de ne pas pouvoir accueillir tout le monde au gala qu'on diffuse sur M6. Et il y a tellement de talents qu'on ne peut pas passer à côté.
Mais justement, ça se passe comment le choix? Enfin, je veux dire, est-ce que vous arrivez comme dans une émission de télé-réalité et par rapport au Marrakech du Rire, vous allez voir certains artistes en disant bon, vous n'allez pas continuer l'aventure avec nous, vous n'allez pas venir à Marrakech?
Non. Le choix se fait naturellement via. La scène. On a une petite scène qui s'appelle la Deep Jam le mardi.
Ouais.
Qui veut, vient, s'inscrit, joue 5 minutes. C'est déjà une première étape. Si j'en entends parler là, ça veut dire qu'il a des chances de se retrouver dans le spectacle du week-end avec la troupe. Et si effectivement là, ça se passe toujours bien. Très souvent, il se retrouve sur la scène.
Après,
du
il lui fait faire des pompes. Sans pompe, et il va à Marrakech.
C'est ça. Et après, tu vas à Marrakech. Un peu de musique, les amis. On a écouté tout à l'heure William, DJ Snake. On vous a préparé un petit blind test marocain. Voilà, c'est un petit peu l'interlude du Bon Dimanche Show.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a pris des grands classiques. Attention, on peut partir loin. Mais on a demandé à un petit orchestre présent ici à Marrakech de nous le rejouer. Ça se joue en 3 manches, d'accord?
Vas-y.
Et on va voir quel est le meilleur des 3. Je balance l'intro et vous essayez de me dire. Blind test marocain. Ok?
Vas-y.
On y va? Il peut y avoir un peu du ringos, hein, je préfère prévenir.
Ouais.
Ok, attention, premier extrait.
La 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 la.
Il faut donner le prénom.
La 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 la. Je sais pas qui chante ça. Rappelle-moi. Ilyes.
Nuit de folie, c'est bon.
Très bien, bien, Ilyes, bravo.
Ilyes, pas du tout sa génération.
Nuit de folie.
Ah oui,
quand même, Jamel.
Voilà, mais là, je me souvenais plus.
J'avais pas un groupe aussi.
Toi qui dessines du fond de ton ennui les notes d'une mélodie, une musique sans accord majeur, c'est du
connais. Ah, mais bien sûr, je connais qui.
Évidemment.
T'étais DJ en province, mais non, toi.
Évidemment, j'étais DJ en province.
Je la connais par cœur.
Attention, une autre. On est toujours dans le même acabit. On est d'accord?
Vas-y. Putain.
Les démons de minuit.
Ouais, démons de minuit.
Mais yes, il a 24 ans, c'est lui qui est en train de vous mettre l'amende.
Ben oui, 24 ans. Ah, il y a sa grand-mère qui lui souffle les réponses.
Bon, un dernier.
Tu sais qu'il écoute Nostalgie, hein.
Ben là, je vois. Attention, le dernier, on est sur de l'international. Ok? Pour l'instant, c'est Ilyes qui gagne. Essayez de vous rattraper. Maxime, Jamel, on
Attends.
Rigole pas avec les blind tests.
Vas-y.
Vous êtes prêts? Musique.
Like a Virgin.
Oui. Madonna, bien.
Voilà.
Je préfère la version avec la Darbouka,
moi. Like a Virgin en acoustique.
Oui, c'est ça. Les amis, c'est le Bon Dimanche Show sur RTL. On est depuis Marrakech à l'occasion des Marrakech du Rire. Jamel Debbouze est notre invité. Et sur RTL, extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022, 35 tubes réunis sur 2 CD. C'est la bande-son de votre été et c'était Tu me plais.
Qu'est-ce qui dure 1h30, qui fait rire et qui sent bon la lavande? Le Bon Dimanche Show sur RTL. On n'est pas tout à fait sûr pour la lavande, c'est pas fait encore.
Michel Bougenat, Metzila et Jeff Panaclock font leur Bon Dimanche Show sur RTL depuis Marrakech à l'occasion des Marrakech du Rire. La semaine dernière, on avait Jamel Debbouze qui est donc le grand patron des Marrakech du Rire. Ça se passe comment l'invitation quand il vous appelle? Michel, c'est votre première fois là au Marrakech du Rire cette année. C'est Jamel qui vous a appelé directement?
On m'a dit Jamel veut que tu viennes. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit tu verras quand tu y seras.
Et là, donc, pour l'instant, vous avez vu quoi?
Rien.
La piscine.
La piscine, je suis très content d'être là, j'adore Marrakech et c'est tout. Et voilà, je suis.
Est-ce que vous stressez encore avant de monter sur scène, Michel, avec la carrière que vous avez?
Évidemment.
Ouais.
Évidemment, de plus en plus même. On a de plus en plus peur. Ça s'arrête jamais.
22 septembre à Bruxelles, ça va être les adieux à vos magnifiques.
Oui.
Ça se passe comment? Comment on appréhende ce moment? J'ai avoir deux, trois questions un peu à la Laurent Boyer, mais après, il y aura d'autres.
Alors, l'enfant, Michel, l'enfant qui sommeille en vous, Michel.
Normalement, c'est les pieds sur la table, normalement, la question. Non, mais ça fait quelque chose, je suppose.
Je peux pas vous dire, on verra quand ça arrivera.
Est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves, Michel?
Ça fait
ce qui vous en reste.
Comme disait Jeff tout à l'heure et Jean-Marc, ça fait très longtemps que je fais ce métier. Et à chaque fois, c'est un mystère pourquoi je le fais, pourquoi je continue, pourquoi j'écris, pourquoi. Voilà. Mmh. On verra bien. Laissez-moi faire un kiff.
Mais moi, je vous laisse faire un kiff.
Je suis au soleil. Pourquoi vous m'angoissez?
Mais on je vous angoisse pas, Michel. Moi, je vous angoisse pas. Je suis là pour vous faire kiffer. La piscine à côté, c'est à un moment où vous avez besoin de quoi que ce soit.
Ne me parlez pas du mois de septembre.
Alors, je vous parle pas du mois de septembre.
Les adieux, c'est magnifique, ça viendra.
C'est vrai.
Pour l'instant, je ne veux pas y penser.
Tu vois, à partir d'un certain âge, on te dit ne nous parlez pas du mois de septembre.
Je viens de me rendre compte, j'ai fait ce truc à Michel Boujna qu'on a tous vécu quand on était adolescent. Vous savez, quand c'est le début du mois de juillet, qu'on arrive au supermarché pour faire les courses avec ses parents et que c'est le début des vacances et il y a déjà les cartables. Michel, je suis désolé, je viens de vous faire ça et je m'en veux horriblement.
Mais c'est un kiff, je suis fou de joie de jouer, attention. Mais c'est vrai que ça fait 15 jours que j'ai arrêté de jouer l'Avare.
Ouais. Qui a été un carton.
Ouais, ça s'est bien passé. Je suis en train de me sortir de cette aventure qui a été complètement dingue. Et voilà. Et vous avez d'autres questions
En tout cas, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que j'ai eu la chance de faire la première partie de Michel. Et quand tu te fais inviter par Michel en première partie, quand même, ça te met la pression.
Mais Ahmed,
c'est une pression différente du Marrakech du Rêve, mais je peux te dire que c'est la pression.
En parlant de pression, Jamel, qui était notre invité la semaine dernière, nous disait c'est vrai que pour vous, il y a eu un avant et un après des Marrakech du Rêve.
Bah oui, complètement. Rien, je fais des interviews maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Je ne sais pas.
C'est vrai, maintenant, vous êtes tête d'affiche.
Non, mais c'est.
Ahmed, tu m'emmènes un café, s'il te plaît. C'est clair,
mais vraiment. En fait, c'est des endroits comme ça qui te mettent en lumière. Et le public, même si t'as fait un petit peu de télé, t'as fait 2-3 trucs avant, c'est des trucs, c'est tellement énorme, il y a tellement de millions de téléspectateurs qui regardent ça, c'est tellement repris sur les réseaux sociaux que si tu cartonnes ici, bah après c'est un tampon en fait. Ouais. Voilà, t'es validé par Jamel. Voilà,
et puisqu'on parle de carton, Jeff Panaclock aventure, succès de dingue. Je me souviens, on en avait parlé, Jeff, quand vous étiez venu au moment du lancement de la tournée, où vous disiez on a toujours un peu peur, etc. Ouais. Bon, validé, on est d'accord.
Tout se passe bien. Je suis comme Michel. J'espère que ça va continuer. Voilà, on se remet toujours en question sur un nouveau spectacle. Donc voilà, et même quand on vient sur un festival comme ça, j'ai l'impression qu'on remet un peu notre titre en jeu à chaque fois qu'on monte sur scène et qu'on se dit. Tout peut s'arrêter parce qu'on fait un mauvais sketch. Bon, c'est peut-être rarement le cas, mais en tout cas, ça compte beaucoup, surtout quand on a eu des sketchs qu'on a très bien réussi avant. Voilà.
J'ai pas l'impression que Michel soit dans un délire de remettre son titre en jeu ce soir. Hein. Là, pour le coup, je le sens plus détente, moi, vraiment.
Mais parce que Michel, c'est le titre.
Ouais, oui, c'est ça.
C'est lui le titre.
Il y a plus de titre à défendre.
Michel,
c'est-à-dire, en plus, je suis là, mais je dois pas jouer, moi.
Ah d'accord.
Moi,
on va vous voir passer sur scène quand même.
Je sais pas.
Ah d'accord.
Je vous dis.
En régisseur.
Je vous dis, il m'a rien dit.
Déjà, faut qu'il mette des chaussures.
donc je juste il m'a dit viens.
Bon.
Et pourquoi il m'a dit tu verras.
Ouais.
C'est tout ce qu'il m'a dit. Donc je fais un kiff moi.
Il y a quand même un truc que je veux dire, c'est sur l'équipe de Jamel et Jamel, c'est qu'il y a une fidélité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est invité une fois, il nous invite tous les ans. Alors des fois le planning ne peut pas aller avec, etc. Mais c'est vrai que quand on veut revenir, la porte est ouverte. Alors je sais pas, peut-être que maintenant on va être un jour 60 sur scène, parce qu'à force d'en rajouter, il y aura plus de place. Mais c'est vrai qu'ils sont très très fidèles, et ils veulent qu'on revienne tous les ans. Donc ça, c'est vraiment, ça fait plaisir.
Il y a la scène et puis il y a l'ambiance de Marrakech. Je vous propose qu'on se pose deux secondes dans l'ambiance de Marrakech. On a fait la semaine dernière un blind test spécial marocain avec Jamel et ses invités.
Ouais.
On va conclure avec ça. On va se mettre dans l'ambiance de Marrakech, d'accord?
Allez.
On a demandé à un groupe marocain de rejouer des titres classiques. Quand je parle de titres classiques, je parle pas de musique classique. Je parle de titres populaires.
Ok.
J'aime
bien blind test.
J'aime bien ce jeu, Bruno.
Je suis mauvais joueur.
Vous allez devoir essayer d'identifier les titres, ok?
Ahmed,
Michel, Jeff.
Je peux aller sur Shazam en même temps?
Tu trouveras pas sur Shazam, ça a été complètement réorchestré. Vous donnez la réponse quand vous l'avez.
Ok.
Ok, ouais. Premier titre.
Ah oui, je connais.
Mylène Farmer.
Bien, ouais. Jeff, bonne réponse en toute façon.
Ouais,
t'es fort.
Ah, tu sais pas sur qui t'es tombé. Hein.
Moi, je trouve qu'il y a la Darbouka. Ça amène
un truc assez exotique qui est pas mal.
Ça amène un petit plus.
Qui est pas pour me déplaire. Hein.
Attention, on part un peu plus loin dans le temps. C'est marrant parce que ça fait musique marocaine et un peu salon de massage thaïlandais aussi, hein, vraiment.
que je suis nul.
Pourtant vous avez dansé dessus.
Je l'ai.
Bien sûr.
Sûr.
Un disco, évidemment.
C'est elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau des Saint-Jean.
Pas du tout.
Ah ouais, bah je l'avais pas.
C'est ça que je voulais dire.
Mais attends, ça a aucun rapport.
C'est ça, c'est fait niquer par le rythme.
Michel, excusez-moi, retournez l'oreille.
Ouais, maintenant oui.
Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous faites les finitions, madame?
Petit dernier, attention.
Oui. C'est pour la thriller.
Bien. Vainqueur, Jeff Panacloc.
Mais t'as l'oreille musicale. Il a l'oreille musicale. Waouh.
Les amis, sur la scène du Marrakech, du rire.
Mais moi, même avec la version originale, j'aurais pas trouvé.
Michel Boujna, merci.
Le générique.
Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau spécial du Bon Dimanche Show. Ahmed, merci beaucoup également. Bruno. Jeff, Jean-Marc, merci beaucoup
merci
également.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Bon après-midi sur RTL.
RTL. Revivre ensemble.
Ah, lundi matin, c'est pénible, il fait froid, il faut se lever, il faut aller bosser. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le dimanche après-midi. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
Artus fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le film J'adore ce que vous faites sort mercredi sur les écrans avec Gérard Lanvin. Et puis, à partir du mois de juin, retour de duel à David et Jonathan. Alors, histoire complètement dingue avec cette pièce, parce qu'on a l'impression que vous la jouez depuis 1000 ans. Enfin, vous êtes mangé un bon Covid quand même.
Ah bah oui,
vous
avez
éloigné
deux ans...
de la scène, quoi.
Ouais, il y a eu deux ans mortes. Hein,
c'est ça, ouais. Ouais.
Deux années mortes. Et là, ce qui est cool, c'est marrant parce que les gens, ils viennent nous voir à la fin du spectacle et on signe des places où. Qui ont été achetés en 2019 ou en 2020, et c'est ouf. Mais c'est ouf que les gens s'en souviennent. On a évidemment, il y a toujours de la perte, t'as toujours du no-show, ce qu'on appelle du no-show, des gens qui viennent pas parce qu'ils ont oublié, mais t'as quand même une grande partie qui s'en souviennent. Moi, j'aurais acheté des places il y a 3 ans, je serais pas venu.
En ce dimanche, j'ai un petit problème, Arthus, je suis désolé de vous le dire, mais il peut pas y avoir deux shérifs dans cette bonne vieille ville de Bon Dimanche Show. Je mets un magnifique Stetson qui vient vraiment de l'Ouest américain, alors que le chapeau qu'on vous a trouvé, c'est celui de Zaza dans la cage aux folles. Arthus, j'ai 2-3 questions à te poser.
Ah,
et permets-moi de te le dire, je vais te tutoyer.
Vas-y.
Dis donc, Arthus, c'est pas trop la loose d'être arrivé seulement 3e à Danser avec les Stars?
Écoute, non, parce que déjà, j'ai rencontré ma femme. Donc déjà, c'est une victoire. Et puis que, bon, fallait bien que Laurent Mestret fasse quelque chose de sa vie.
Dis donc, Arthus.
Ouais.
Ça te fait marrer de te moquer des handicapés avec ton personnage Sylvain?
Ça me fait marrer et surtout, ça fait avancer les choses, je pense. Parce que, hop, t'as vu, j'ai repris ma voix de... Ouais. Parce que, en fait, si on le considère comme des gens normaux, il faut qu'on en rit. Voilà. Ouais. Parce que c'est l'hypocrisie, tout le monde te dit...
Mais c'est vrai. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a rien de pire pour un handicapé que de lui renvoyer son handicap en n'osant pas déconner avec lui. C'est ce que je dis souvent. Voilà,
et puis tout le monde est d'accord pour dire ils sont comme tout le monde. Voilà. Mais par contre, dès que tu fais les vannes, tout le monde dit non, attention, ils sont comme tout le monde, mais on n'a pas le droit de. Alors, ils ne sont pas comme tout le monde. Moi, je considère que si, donc on a le droit de faire les vannes. Et puis, mes vannes sont très light par rapport à ce qu'ils peuvent se faire eux entre eux.
Bien sûr. Dis donc, Arthus,
ouais.
Ça te gêne pas trop d'avoir un look de comptable puceau dans le bureau des légendes?
Pas faux. C'est pas faux, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est pas le personnage le plus viril.
Et on va finir avec la dernière, j'en suis pas peu fier. Dis donc, Arthus, ça fait quoi d'avoir un nom qui rime avec anus?
Écoute-moi, Bruno Guillon. Ça fait quoi d'avoir un nom qui rime avec Bruno Guillon?
Pas mal. Moi, je prends. Je vais repartir avec ce magnifique coucher de soleil sur mon fringant d'estrier. Mais je vais revenir dans quelques minutes, Arthus.
Moi, j'ai pas le droit de t'envoyer une balle.
Vas-y.
Dis-moi, Bruno Guillon.
Je t'écoute.
Ça fait quoi d'avoir perdu 30 kilos pour les reprendre peu de temps après?
Fallait bien que quelqu'un se fasse l'appeler lui aussi Laurent Ournac, ma gueule. Allez, vous restez sur RTL, c'est Arthus qui est notre invité, à tout de suite.
RTL.
Tour de France 2022, Nicolas Georgerot.
La troisième étape de ce Tour de France 2022 entre Vejle et Sønderborg pour conclure le triptyque danois. 52 km parcourus aujourd'hui sur cette troisième étape et un coureur s'offre un bain de foule en tête. C'est le Danois Magnus Kort Nielsen avec son maillot à poids de meilleur grimpeur qui est acclamé par ses compatriotes au bord de la route. L'écart avec le peloton, il a culminé à 6 minutes et 45 secondes. Il est en train de redescendre. Il y a plusieurs équipes de sprinteurs notamment qui veillent. Et l'écart donc avec ce peloton n'est plus que de 4 minutes, mais ça lui laisse encore un peu de marge pour aller chercher un point ou deux sur les deux petites côtes qu'il reste à négocier sur cette troisième étape. Prochain point sur cette route du Tour, tout à l'heure à 15h.
Passez un bel été sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
Avant, le dimanche après-midi, j'étais triste, j'avais pas d'amis. Aujourd'hui, j'ai toujours pas d'amis, mais au moins je me marre. Le bon dimanche chaud, Bruno Guillon sur RTL.
Dernier quart d'heure avec Frédéric François qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le dernier album de Frédéric François est un album de duo avec des stars qu'on aime et Dieu sait que ces duos sont exceptionnels. On en découvre quelques-uns depuis tout à l'heure. J'aimerais qu'on écoute celui avec Salvatore et Adamo.
Ah oui.
Elles sont la douceur et la voix de la
assez dingue, c'est quand on voit votre carrière et la carrière de Salvatore Adamo, si vous n'aviez pas eu l'occasion de chanter tous les deux avant, en fait.
Sur on un a disque. Déjà chanté ensemble, voilà.
Non, mais sur un album, je parle que c'est...
Non, sur un album, jamais. En fait, on a chanté parce que tous les deux, il y a une cause qui nous tient à cœur, c'est le Télévis en Belgique. Mm-hmm. On récolte de l'argent pour aider la recherche pour le cancer, bien
à
sûr.
À l'initiative notamment voilà. De ma camarade Bérénice émission, Bourgueil, qui gère les destinées du Télévis en Belgique. Et, que voilà. Je
et dans cette émission, on a souvent chanté en duo, mais jamais, jamais sur un disque, c'est la première fois.
Mm-hmm. Et là aussi, regardez comme c'est magique.
Elles savent mieux que nous combien certains hommes peuvent être fous.
Alors Frédéric, je le disais tout à l'heure, carrière extraordinaire, 5 décennies de succès, 513 chansons enregistrées, 85 disques d'or, 38 albums en 4 langues, et du coup ça en fait des souvenirs. On s'est amusé en préparant cette émission à aller dans la banque à souvenirs d'RTL. On a récupéré des sons d'archives, d'accord ? Oui. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on écoute les sons d'archives qui vous concernent, et on en parle après.
Allez, d'accord.
Le premier son, le voici.
Janine, 71 ans, est renversée par un chauffard alors qu'elle traverse au passage piéton. Dans un coma profond, son cas est désespéré. Elle ne montre aucun signe de vie, mais son fils a une idée. Car Janine est fan absolue de...
Mon cœur te dit je t'aime.
Oui, de Frédéric François.
Oui.
Alors, il lui passe des morceaux de son idole. Allez. Mon cœur te dit je t'aime, ou encore le fameux...
Je t'aime à l'italienne,
mais rien n'y fait, Janine ne réagit pas. Son fils tente alors un pari fou. Il veut que Frédéric François parle à sa mère. Et là, coup de chance, via un ami, il récupère le numéro d'un autre chanteur belge, Claude Barzotti, vous vous souvenez ?
Je suis vital et je le reste.
Alors Barzotti joue l'entremetteur.
C'est extraordinaire.
Oui, Frédéric François va appeler le fils de Janine, qui met le haut-parleur dans la chambre d'hôpital. Pendant plus de 10 minutes, Frédéric François va parler à Janine, l'inviter en VIP à ses prochains concerts. Sur le coup, rien ne se passe, mais le lendemain... Miracle, le rythme cardiaque de Janine s'accélère, elle ouvre enfin les yeux et si son état reste encore préoccupant, sa famille est unanime, grâce à Frédéric François, l'espoir est de retour.
C'est quand même dingue cette histoire.
Je n'ai rien de particulier.
Mais oui, non, mais on le disait tout à l'heure quand vous disiez ça permet aux gens d'aller mieux, bah là c'est au-delà de mieux quand même, elle est sortie du coma.
Voilà, mais je me souviens de ce problème, elle était dans le coma et le lendemain quand son fils est arrivé à 13h, parce que c'était quand ils sont en soins intensifs, ils
ont... Oui, il y a des horaires de
voilà,
visite.
Voilà, une horaire pendant une demi-heure. Ouais. Voilà. Et il arrive à 13h, et là, il voit sa mère assise sur le lit. J'ai juste fait une promesse à cette dame.
Oui, mais il y a très très peu de chanteurs. J'ai même envie de dire, vous êtes quasiment le seul qui aurait accepté de faire ça. Enfin, le truc, l'histoire est dingue.
Et quand j'ai fait Forêt Nationale, je l'ai reçu. Elle est venue dans ma loge, on a bu un verre de champagne, je l'ai embrassée, et cette Janine est toujours en vie aujourd'hui.
C'est génial.
Voilà.
L'histoire extraordinaire. Autre son d'archives, vous, concernant, cher Frédéric, on est remonté un peu plus loin. L'école des fans, avec Jacques Martin.
Frédéric, sois attentif.
On a chacun son caractère.
Et devient soudain la...
Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Tu pleures parce que tu es content ?
Il s'appelait Joris, vous faisiez l'école des fans,
oui,
et
je
en fait,
me souviens.
Il est fan de vous, mais il est tellement fan qu'il commence à chanter et il s'effondre en sanglots, en
oui,
fait.
C'est ça. Il commence à pleurer, et puis moi je suis allé à côté de lui.
Parce qu'au départ, il y a Jacques Martin qui lui dit, tu veux qu'il vienne chanter avec toi? Il dit non. Il dit non parce qu'il veut y arriver tout seul, il veut vous prouver qu'il sait faire.
Mais voilà, pour moi, Jacques Martin, il agissait d'une façon fraternelle avec moi. Quand je descendais le grand escalier, il venait me chercher, il me prenait par la main, on arrivait devant la scène et il me disait à l'oreille, vas-y, salut. Je saluais. Et il me disait, waouh, t'as vu quel succès? Salut encore une fois. Et je resaluais. Et donc, c'était quelqu'un de très important pour moi. D'ailleurs, quand il commençait l'émission, je me souviens d'une anecdote, parce que voilà, il se réunissait. Et au début de l'année, il devait choisir un chanteur, sûrement pour l'Audimat. Et on lui propose un chanteur. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Elton John? Vous me parlez de Elton John? Ne me dites pas que Elton John va nous faire plus d'Audimat que Frédéric François.
C'est extraordinaire.
Voilà, je trouvais ça extraordinaire. Et c'est moi qui commençais l'émission. Mais ce jour-là, je me souviens de cet enfant qui s'est mis à pleurer. Et donc moi, j'essayais de continuer la chanson.
Oui,
et tout
oui,
ça.
Oui, mais c'est un moment de télévision
voilà,
qui était extraordinaire.
C'était des grands moments, ça.
Dernier son d'archive. Vous êtes sur le plateau de l'émission de Christine Bravo. Et il y a une femme de 87 ans qui arrive en plateau et qui est ultra fan de vous.
Vous avez 87 ans?
Bien sûr.
Vous connaissez tous les deux?
Nous nous sommes déjà rencontrés à 4 Olympia. Je vous vois souvent avec Fabrice à RTL, avec qui vous avez une complicité formidable.
C'est vrai.
Hein, c'est très vrai. C'est très bien avec Fabrice.
Ça passe.
Ah oui, ça passe très
bien. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, chez Fabrice?
Quand Frédéric est là. Ah, je n'y vais que pour Frédéric.
Mais vous habitez où, Georges?
Saint-Cyr l'école, près de Versailles.
Et comment vous faites? Alors, comment vous savez où il est, Frédéric?
Mais je le suis partout. Et depuis 1986, où je suis seule, c'est Frédéric qui m'aide à vivre. Tout ce qu'il chante, c'est merveilleux. Oui. Il vous envoie ça en pleine figure.
Et donc...
Mais du jour où j'ai été seule, j'ai dit, c'est mon sauveur.
C'est quand même dingue. Cette relation que vous avez avec vos fans, je trouve ça extraordinaire.
Et voilà. Georgette, je l'ai rencontrée à l'Olympia. Elle devait avoir 80 et des ans. Elle me dit, voilà... c'est peut-être la dernière fois que je vous vois. J'ai dit non, Georgette. Tant que moi, je chante, je veillerai sur vous et vous serez toujours là. Et donc, Georgette, quand elle déprimait, elle appelait le fan club. Le fan club m'appelait et je conversais avec Georgette. Et je peux vous dire que Georgette a vécu jusque 103 ans.
Mais non.
Si.
Je vous dirai. Il sort les gens du coma, il fait passer les gens centenaires.
Non.
Je suis sûr que si on avait fait cette émission en direct de la scène,
Bruno,
vous l'auriez traversé à pied.
Non,
Frédéric.
Je n'ai rien de spécial, rien du tout.
Moi, je vais vous avouer quelque chose, Frédéric. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, c'était grâce à mes deux sœurs qui sont un peu plus vieilles que moi. J'ai 11 ans de différence avec ma grande sœur et elle avait 2 33 tours. Elle avait un 33 tours des Beatles et elle avait un album de vous. Et donc, j'ai découvert la musique anglaise avec les Beatles et j'ai découvert la chanson française avec un album de Frédéric François.
Ça me touche.
Et je vous dis ça parce que la première fois où on s'est rencontrés, je n'ai pas osé vous le dire parce qu'on a toujours peur d'être tanné. C'est un événement live RTL et pour se remettre dans l'ambiance, à l'instant, c'était Miss You.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
On est à la troisième pour réviser autrement.
Le Bon Dimanche Show sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et Fourchette d'Or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
Clovis Cornillac fait son Bon Dimanche Show, c'est magnifique, sort sur les écrans le 1er juin. Alors tout à l'heure dans votre boîte à pourquoi, on a entendu votre maman, Myriam Boyer, qui joue un rôle très important dans le film. Je suis assez épaté en fait sur tous les personnages qui entourent Pierre, votre personnage dans le film. Là je parle des rôles principaux, mais même sur le choix des seconds rôles, il y a une galerie de portraits qui est hallucinante. Comment s'est préparé justement le film autour de ces visages-là et comment ça s'est passé pour le Clovis Cornillac réalisateur?
Alors en fait, moi, dans la manière de procéder, une fois que j'ai le scénario, que je me dis, voilà, le film, il est là, je sais qu'il est là. À partir de ce moment-là, commence le process de casting, parce que je ne pense jamais à des acteurs avant. Voilà, je commence à
vous n'avez pas de visage quand vous écrivez sur un scénario, etc. Vous ne vous dites pas, ah tiens, non, et puis, elle, ça pourrait être un tel. Vous n'aviez pas pensé à votre maman quand vous...
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Et puis... c'est vraiment, chaque moment est pour moi à son moment. Donc le moment du casting, c'est vraiment, c'est une musique, c'est des visages, c'est des peaux, enfin c'est tout ce que tu veux assembler ensemble. Et du coup, Myriam est arrivée assez vite, parce qu'effectivement, bien avant qu'on sache que ce soit moi qui fasse Pierre, hein, il me fallait une actrice charismatique, de la génération de Myriam, qui soit une actrice capable de jouer un personnage comme Félicie, qui est un personnage pareil, sur la limite, compliqué à aller chercher. Quelqu'un qui bosse, parce que comme moi, je ne suis pas génial, je bosse beaucoup, je travaille beaucoup, je suis un chieur sympathique, c'est-à-dire pas du tout tyrannique, pas gueulard. Mon plateau, personne ne gueule, je ne veux pas de...
De coup de colère, soit, de, voilà, ouais, une ambiance saine de voilà, travail.
Je veux du swing, mais en revanche...
Faut que ça bosse.
Ouais, et je demande beaucoup. Ouais. C'est-à-dire, je lâche rien avec un sourire, mais on refait. Et donc, il me faut des gens au travail. Myriam, c'est quelqu'un qui travaille et qui est vraiment là, quoi. Et c'était pareil, Alice Paul, elle est venue assez rapidement. Je trouve qu'elle avait comme ça, et la fraîcheur. Elle a aussi cette chose que je trouve formidable pour nous, public. On a l'impression que... Ça peut être notre petite sœur, ça peut être notre cousine, ça peut être une super pote, ça peut être ta meuf. Enfin, il y a quelque chose de... Et elle a du glamour.
Et puis, elle a une justesse dans le personnage.
Et du coup, et d'aller chercher...
C'est top.
Et ce qui m'intéressait aussi avec Alice, c'est qu'elle avait elle a fait un très joli parcours avec Dany, qui vont sûrement continuer à faire des choses et tout ça, dans un registre. Et je sentais que je pouvais l'emmener aussi ailleurs. Et c'est intéressant pour un acteur d'aller se balader ailleurs, d'aller... Essayer de trouver d'autres choses. J'étais ravi parce que, pareil, elle est très à l'écoute au travail, elle est concentrée, elle est gourmande de travail, donc c'est vraiment. Et puis talentueuse. Et tous les gens autour, vous le disiez juste avant.
Il y a Gilles Privat, il y a vraiment une galerie de portraits. On parlait tout à l'heure au démarrage de l'émission des gens qui faisaient un peu qui disaient, ah tiens, c'est de la famille un peu d'Amélie Poulain, etc. Je trouve que dans le choix dans les galeries de portraits, il y a des vrais visages, quoi. C'est-à-dire
ah
que
oui, il y a des gueules, chaque, ouais, comme on dit.
C'est pas des gens qui passent juste dans le film, ils ont leur importance et ils amènent des vraies gueules de cinéma, quoi.
Mais il y a, en fait, quand tu fais un film, il n'y a qu'une personne qui sait où il va, normalement. C'est la réalisatrice ou le réalisateur. Et tu dois emmener tout le monde dans ton monde. Donc, c'est les emmener les uns les autres et les nourrir, mais aussi bien à la lumière, au cadre, à tout. C'est-à-dire que tout est un moyen d'expression, tout est une écriture. Donc, avec les acteurs, il faut qu'ils soient heureux de ce qu'ils jouent, mais il faut qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer pour eux. Donc, d'avoir des gens... En fait, il faut des gens extrêmement talentueux, mais totalement à l'écoute et en confiance. Donc moi, ce que je leur demande, je leur dis, avant le début du film, ne vous inquiétez pas, comme à l'équipe technique, je dis à tout le monde, je vais vous demander beaucoup, et une chose est sûre, c'est que sans votre talent, le film sera pourri, à vous tous. En revanche, si le film est pourri, c'est vraiment à cause de moi, parce que vous avez écouté ce que je vous ai demandé. Et je le pense sincèrement, je crois que quand on fabrique quelque chose, à cet endroit-là, on est le seul responsable de l'échec, et qu'au contraire, quand le film est peut-être réussi ou apprécié, il n'est que partage, parce que tu ne peux pas faire un film seul, c'est impossible.
Alors Pierre, votre personnage, on le disait tout à l'heure, est très proche de la nature, il fabrique même des fleurs qui donnent un miel particulier, parce que vous vous occupez d'abeilles dans le film d'ailleurs. Vous avez un rapport, une affection particulière pour les animaux, vous avez un chien qui s'appelle Orson,
ouais.
Et on s'est dit, tiens, on va lui faire une interview, Wav Bimao. Clovis, dans quelle situation vous pouvez être têtu comme une mule?
Ouais, sur un tournage, ouais.
Qu'est-ce qui vous rend fier comme un coq? On a parlé d'un César tout à l'heure, c'est le genre de truc qui vous touche ou
Ouais, non, je dirais en vrai, mon épouse, mes enfants, je me la pète un peu.
Ouais. Ouais, sur le côté famille. Pour quel événement vous avez une mémoire de poisson rouge?
Les prénoms, les noms.
Ça, Ça, c'est horrible. On a le même problème.
C'est horrible. Ça.
Vous êtes face à une personne qui peut dire 4 fois bonjour à la même personne dans une soirée. Hein. C'est horrible. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un mal de chien?
Ouais, ça m'arrive plutôt régulièrement parce que les sports que j'ai pratiqués pendant longtemps, c'était des sports où il fallait que je me fasse mal. C'est-à-dire la douleur, pour moi, est quelque chose de... c'est pas du masochisme, je pourrais pas me scarifier ou tout ça, mais j'ai besoin dans l'effort de sentir la douleur. Donc c'est un rendez-vous assez permanent.
D'accord. Quand un projet traîne un peu, est-ce que vous prenez le taureau par les cornes? Faire tous les trucs en rapport avec les animaux. Il y en a qui seront plus qu'avec le tract, évidemment.
Oui. Ouais, je fuis pas. Non.
Est-ce que vous avez un appétit de moineau?
Non.
Il est fit hein, quand même, le Clovis Cornillac. Oh, bah, attention, gentil, mais... j'ai l'impression.
Putain, c'est une lutte. Hein.
Ouais, je sais. Moi, j'ai abandonné. c'est quand la dernière fois que vous avez eu un coup de cafard?
Quand un des films que je voulais monter, j'ai pas réussi à le monter financièrement.
Parce que là, c'est magnifique qui va sortir le 1er juin. Ça s'est tourné avant les 2 années de Covid. Ouais. En fait, vous deviez être dans votre coin à attendre comme un dingue que ce film puisse enfin sortir.
Oui, alors j'ai eu la chance d'en faire un autre pendant la période Covid. Donc, heureusement, m'arrêter 2 ans et demi, je sais pas. Je pense que pour l'entourage, ça aurait été terrible. Il aurait fallu que je fasse un trek en secret.
Un trekking au Népal. Qu'est-ce qui demande le plus de travail de fourmi, acteur ou réalisateur?
Réalisateur, c'est incomparable. Alors après, dans la réalisation, il faut bien... c'est comme dans tout, comme acteur, comme à la radio, comme n'importe quoi. Moi, j'ai participé et je vois des films où tu dis il n'y a pas de réalisation. Donc ça, c'est facile à faire. Je veux dire, si tu mets des caméras dans tous les axes, avec toutes les valeurs, et qu'ensuite, au montage, ce n'est pas toi qui montes le film, en fait, tu filmes une histoire. Mmh. Donc, filmer une histoire, ce n'est pas réaliser. Mais si tu réalises vraiment un film, c'est une dinguerie, quoi. Tu dors pas, tu vis que là-dessus, c'est un truc de dingue. Tu t'intéresses aux ourlets, quoi. Ma vie.
Ah, pour les costumes?
Ah, mais de tout. Je regarde tout m'obsède, tout me passionne. Et dans la vie, j'en ai, mais vraiment rien à foutre. Et c'est dingo. Mais je peux regarder une surpiqûre.
Et ce souci du détail, on le retrouve dans ces magnifiques. Son réalisateur et acteur principal, Clovis Cornillac, passe son dimanche après-midi avec nous. C'est le Bon Dimanche Show sur RTL.
RTL, le Bon Dimanche Show. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
Anthony Cavana fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Ouh. Actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris, ça cartonne et ça fait plaisir tant à vous qu'au public. 5 ans d'absence.
Oui.
Il y a une phrase dans le spectacle, je disais le précédent spectacle, c'était Schumann, qui était un spectacle fort en émotion, parce qu'à l'intérieur de ce spectacle, vous parliez notamment de la disparition de vos parents. Mm-hmm. Et Dieu sait que s'imposer ça tous les soirs, c'est quand même, c'est quand même fort et lourd à porter. Et, et vous avez dit, vous le dites dans le spectacle d'ailleurs, mais je trouve ça très drôle, je suis passé de Schumann à Schumer.
Oui, exactement. Pendant cette période, j'ai dit, pour la première fois de ma vie, je pouvais pas bosser, donc je passais de showman à showmer. Ça a été très, au début, c'est cool, super, ça va, bon, on décale d'un mois ou deux, vacances, on va peaufiner le spectacle, après, on décale d'un mois, ok, bon, champagne, on fait la fête. Ok, non, quoi encore? Je commence à m'ennuyer un peu là. On continue à écrire le spectacle. J'avais 4 heures de spectacle quand on a commencé le rodage. Quand on a commencé, j'ai écrit le spectacle avec Sacha Judasco.
Ouais, que je connais bien. Ouais.
Un mec formidable. Et on a écrit par Zoom le spectacle. Et on avait 4 heures de matos.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Ouais.
Le premier soir, j'ai fait 3h30 de show. Le public est... pitié, laissez-nous partir, pitié.
Quand vous commencez le spectacle, vous demandez aux gens de venir avec leur second degré. Pourquoi c'est un truc qui se perd, vous trouvez?
Oui, malheureusement. De plus en plus, le second degré se perd. Les gens commencent à tout prendre au sérieux. On a la peau de plus en plus fragile, je dirais. Ce que je ne comprends pas, c'est des gens qui viennent voir un show d'humour et qui s'offusquent. Vous êtes là pour rigoler, ça, vous êtes là pour ça. Mmh. Et ceux qui sont assis devant, aux deux premiers rangs, vous savez que l'humoriste, il va se foutre de votre gueule aussi. Mmh. Donc, si vous asseyez, il ne faut pas s'asseoir là. Il faut prendre des billets un peu plus loin. Donc, comme ça me gave, je le dis tout de suite, si vous n'avez pas de second degré, si vous n'êtes pas prêt à rigoler de tout... Les issues de secours sont situées là, là et là.
Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, Anthony, mais enfin, vous êtes quand même sur RTL. On caracole en tête des audiences, donc je peux vous dire que niveau nouvelle technologie, on est un peu au taquet. Par contre, on a des fois des problèmes de droit. C'est-à-dire que là, j'aurais voulu utiliser le logiciel d'Apple, mais il faut payer. Donc, on m'a dit, chez RTL, on va en faire un nous. Je vous présente Thierry. C'est notre logiciel à nous. Alors,
Thierry
c'est vraiment... Et ça fonctionne. Dis Thierry, est-ce que Anthony Cavana a des rituels avant de monter sur scène?
Comme vous qui vous touchez les parties avant chaque émission, par exemple, je lance la recherche. Dans le magazine Biba du 2 juin 2016, Anthony Cavana a dit, avec mon régisseur, on se tape dans les mains et il faut que ça fasse un bruit sourd, poc.
C'est vrai ça?
Oui,
toujours
oui, entre autres, oui. On commence comme ça, il faut se taper dans les mains, il faut que ça fasse POC. Et après, on fait d'autres trucs un peu plus. Voilà.
Ouais, on ne peut pas le dire à la radio, bien sûr.
Je pensais que Thierry allait être un peu plus parisien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
C'est une intelligence artificielle.
Pas du tout.
D'accord. Dis Thierry, quand il était enfant, Anthony Cavana, il rêvait de quoi?
Le 21 avril 2022, le site Magic Maman a relayé l'info suivante. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir ingénieur en aéronautique.
Échec, du coup.
Échec. Total. Mais les gens s'envolent quand même dans mon spectacle.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Je l'ai fait.
Et puis vous nous faites moins chier que Thomas Pesquet qui nous balance des photos de la Terre toutes les deux minutes. Au moment où on dit oh, hé, oh, oh! Un peu tranquille. Et rien que pour ça, je vous remercie. Dis Thierry, Anthony Cavana, il est papa, n'est-ce pas hein?
Bravo Bruno, vous aurez un bon point.
Merci.
Décidément, le site Magic Maman nous en apprend beaucoup. Anthony Cavana a dit, nous avons choisi de ne pas connaître le sexe de nos enfants avant leur naissance. C'est moi qui voulais garder la surprise du sexe.
C'est vrai.
Et je ne le connais toujours pas. Il a 21 ans, je ne sais pas. Il ou elle.
Matisse et Alice.
Matisse et Alice, ouais.
Ouais. Vous avez peur qu'ils suivent les traces de papa et de Yann Artiste? C'est un truc que vous...
Ma fille, mon fils a commencé à faire du doublage.
Uh-huh.
Il a commencé à faire du doublage à Montréal. Et, mais ma fille, c'est un clown. Donc, c'est possible que ma fille...
Ouais, passe du côté obscur de la France.
Passe du côté obscur de la France, ouais.
Dis Thierry, est-ce qu'il y a un conseil qu'Anthony Cavana a suivi pour sa carrière?
Oui Bruno, et vous devriez d'ailleurs suivre le conseil de votre femme de ranger vos vêtements, mais ce n'est pas le sujet.
Non, ça ne l'est pas, non.
Sur le site internet Pure Trend, Anthony Cavana a dit avoir suivi le conseil de sa maman, fais ce que tu veux, mais fais-le bien.
J'adore cette phrase.
Ouais, fais ce que tu veux, mais fais le mien, parce que quand j'ai décidé de... J'ai commencé à 19 ans,
ouais.
Okay, professionnel, je quitte l'université, je dis, je me lance là-dedans. Mon père en panique, ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe, mon fils?
Bah, c'est couillu quand même.
Oui, oui, mon fils, tu vas devenir un drogué homosexuel. C'est arrivé beaucoup plus tard. Mais, et donc, le show business, c'est ça, les gens, comme ça et tout. Et ma mère, elle a dit... Fais ce que tu veux, mais fais le bien. Oublie ce que ton père dit. Vas-y, tu le sens. Parce que ma mère aurait voulu être une artiste aussi. Mm-hmm. Je l'ai compris des années plus tard. Donc, si elle ne m'avait pas dit ça, je serais peut-être pas devant vous en ce moment. Et j'ai fait un deal avec mon père. J'ai dit, bon, à 22 ans, si je ne gagne pas ma vie, je retourne à l'université. Puis il a fait, OK. Parce que tout le monde a minimum des masters dans ma famille, dans l'entourage de mes parents.
Vous êtes le vilain petit canard, quoi.
Je suis le vilain petit canard, exactement.
Thierry, pour finir, quel regard Anthony Cavana porte sur l'humour aujourd'hui?
Aujourd'hui, je ne sais pas, mais en 2016, il a dit dans l'Indépendant du 9 octobre 2016, certains gags feront toujours rire, mais plus la société est ouverte d'esprit, plus on pourra aller loin dans le rire.
Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au second degré.
Oui, puis là, en ce moment, le terrain de jeu des humoristes est de plus en plus petit. Le côté politiquement correct est en train, pour moi, hein, je trouve que ça nous étouffe. Et puis il y a plein de choses qu'on pouvait dire il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Même bon, dans les années 80, 70, on disait un peu tout, on peut tout dire. Quelquefois on disait des choses qui faisaient très 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 mal et qu'on tapait sur les on s'acharnait, disons, sur une communauté ou sur des choses. L'acharnement, j'aime moins ça. Moi, quand j'aime me moquer de tout le monde. Je trouve qu'une société qui perd son sens de l'humour, c'est une société qui est vouée à l'échec. Et deux, trois étapes plus loin, c'est la censure, c'est la dictature, c'est... Mmh. Voilà, je trouve ça dangereux.
Bon, écoutez, en tout cas ici, une chose est sûre, c'est que de la censure, il n'y en aura pas. Mmh. Vous allez pouvoir dire et faire ce que vous voulez jusqu'à 15h30.
Vous retrouvez Bon Dimanche Chaud avec Bruno Guillon.
Merci beaucoup, le prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
Oui, avec Virginie Lemoine qui est notre invité cet après-midi qui fait son bon dimanche chaud. Black Comedy, c'est l'adaptation française de cette pièce de Peter Schaeffer. Elle date de 1965. Oui. On va essayer de la pitcher parce que c'est compliqué. C'est un classique anglais, hein, de la comédie. C'est une soirée organisée en l'honneur d'un éminent collectionneur. Voilà, c'est Arthur Junio qui va recevoir cet éminent collectionneur. Mais lui, il habite un peu dans un taudis. Donc, il profite que son voisin, qui est un peu dans le domaine de l'art, soit pas là pour lui piquer quelques meubles pour que l'intérieur soit quand même montrable. Oui. Il arrive chez lui avec sa chérie Mélanie. Le seul problème, c'est qu'il y a une coupure de courant.
Voilà, exactement.
Il n'y a plus de courant. Et vous, vous êtes la voisine, vous êtes Madame Postlethwaite. Je prononce bien ou pas?
Postlethwaite.
Et en fait, la magie de cette pièce, l'exercice qui est assez dingue, c'est que les trois quarts de la pièce se passent dans le noir, mais il fallait, par une astuce de mise en scène, rendre le noir visible, visible depuis la salle.
Voilà, c'est écrit comme ça. C'est le principe de la pièce de Peter Schaeffer, c'est-à-dire que le principe est inversé. Les personnages commencent dans la lumière, tout va bien, donc en fait on est dans l'obscurité. Et à partir du moment où Mélanie Page, qui est merveilleuse, hein, que je trouve absolument extraordinaire dans le rôle, branche la guirlande,
ouais,
qu'il ne faut surtout pas brancher, et ben tout saute, donc on se retrouve dans le noir, donc on est dans la lumière, une lumière totale, mais pour nous c'est le noir. Dès qu'on retrouve un semblant de lumière, la lumière baisse. Et
c'est le contraire
dans,
en fait,
voilà,
c'est le principe d'opposition, mais qui est plutôt cher d'ailleurs à Peter Schaeffer, qui l'a déjà fait.
Oui, oui, chaque pièce fait tout à fait raison. Porte
le principe d'opposition.
Un principe d'opposition, tout à fait.
Au niveau de la mise en scène, vous avez travaillé un moment avec des masques,
oui,
qui vous bouchaient les yeux?
Oui.
Ce genre de choses?
Oui. Oui.
Très bien. Je peux vous demander de le mettre ou
oui.
pas? C'est un masque, je suis en train de tendre à Virginie un masque occultant, puisque pour la suite de cette interview, nous allons éteindre la lumière. Voilà, vous pouvez le mettre. Nous allons baisser la lumière et vous allez comprendre ce qui va se passer. Je viens de me rendre compte qu'en préparant cette séquence, j'avais pas prévu de lumière pour lire mes questions, mais c'est pas grave, j'ai mon téléphone. Nous allons plonger le studio dans le noir et vous faire passer des objets, chère Virginie, qui normalement devraient évoquer des souvenirs de votre vie. Donc en fait, dans un premier temps, vous tentez d'identifier l'objet qu'on vous met entre les mains. Il n'y a rien qui pique, il n'y a rien qui mord, hein, je vous rassure, il n'y a pas de piège. Et vous essayez de nous raconter l'anecdote qui correspond, d'accord?
Ouais.
Premier objet, hop, on vous le tend. Est-ce que vous voyez ce que c'est?
Je pense que...
C'est une petite taille.
Ah, c'est des chaussons de danse.
Exactement, ballerine de danse.
Ouais, ballerine. Non, mais est-ce que je voulais absolument être danseuse petite? Ouais, alors ça, c'est mon rêve. Parce que pour ça que j'ai fait du théâtre.
C'est vrai?
Me consoler de ne pas avoir fait de danse. Ouais.
Et pourquoi vous n'avez pas fait de danse?
Parce que mes parents étaient artistes et qu'ils n'écoutaient absolument pas leurs enfants dans leur désir de rejoindre une voie artistique. Et non, j'ai jamais.
Bon, mais qui sait, peut-être un jour.
Mais
on
oui,
sait
mais
pas,
j'en ai fait après grand, grand bonheur.
Autre objet qu'on vous tend dans les mains, vous essayez de deviner ce que c'est et l'anecdote qui va avec.
Ah oui, ça, je vois tout ce que c'est. Ça, c'est une prise multiple.
Oui, alors, mais pourquoi une multiprise?
Ah oui, alors ça, c'est parce que pendant le confinement, j'ai mis ça sur Facebook. Et depuis, j'ai quitté d'ailleurs. Mais j'avais tellement nettoyé, parce que je nettoie tout le temps mon appartement. J'ai un énorme talent, je vous prie d'en tenir compte. C'est le fait de savoir très très bien faire le ménage. Et j'ai passé la prise multiple avec du produit pour enlever le vernis
de
l'acétone. Voilà.
Ah ok, d'accord, très
j'ai
bien.
J'ai passé ma prise multiple à l'acétone pour qu'elle soit impeccable.
D'accord, donc c'est pointu. C'est très pointu, c'était exactement ça.
Ah, voilà.
Exactement ça. Et enfin, une petite dernière. Voilà, alors là c'est pareil, c'est tout petit, mais normalement vous devriez identifier.
Je sais pas.
C'est une petite marionnette.
Ah oui, alors
c'est une petite marionnette de doigts, exactement.
Ah oui.
Je voudrais qu'on reparle parce qu'on a écouté tout à l'heure un extrait avec Jacques Martin et je voyais un peu d'émotion dans votre œil.
Oui.
Ça a été une expérience assez dingue,
extraordinaire. extraordinaire. Vous n'êtes pas quelqu'un que vous avez eu l'occasion de rencontrer, vous êtes trop jeune.
Alors, je suis trop jeune, non, merci de le penser, mais en tout cas, j'ai jamais eu la chance non, de rencontrer Jacques Martin.
C'était vraiment un personnage absolument extraordinaire, c'est un personnage d'une culture et d'une identité incroyable. Hein. Il aurait voulu être Antonin Artaud, il aurait voulu être Jean Genet, il avait des passions comme ça, littéraires, absolument extraordinaires. Il aurait voulu être chef d'orchestre. Il avait cette magnifique carrière qui en même temps le comblait et en même temps ne le rendait pas tout à fait heureux. C'était un personnage complexe et très, très grande richesse intérieure, incroyable. Il improvisait des rimes, des alexandrins. C'est incroyable.
Un abonnement payant, voire tarifs et conditions sur amazon.fr/prime. RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show.
José Garcia fait son Bon Dimanche Show sur RTL.
Merci.
Foncez voir Totem à partir du 18 février, ce sera sur Prime. Vidéo, combien d'épisodes sur la première saison?
8 épisodes, 3 premiers le 18 et après 1 chaque semaine pour tenir en haleine. Et...
Je vous dis ça parce qu'en en fait, on a eu la chance d'avoir les premiers épisodes en avant-première, donc je ne sais pas où ça nous mène. Donc quand José est arrivé, j'ai dit tout de suite, ne me spoile pas.
Ah oui, non, ça.
Je ne veux pas savoir. Je veux. Voilà, mais c'est bon signe. Ça veut dire que quand on regarde une série ou à la fin de chaque épisode, on se dit, ah là, quelle heure il est.
Et moi,
qui me lève à 3h30 pour faire de la radio le matin, je peux vous dire que des fois, à 23h45, on a envie de. Et puis, on peut pas.
On peut pas, ouais.
On est un peu accroché par la série.
C'est très tendu, parce qu'après, vraiment, les personnages sont vraiment poursuivis, tendus et tout. Et ça tend pas mal,
Ouais, puis le casting est dingue. On le disait, il y a Lambert Wilson également dans Totem.
Lambert Wilson, formidable, qui a un rôle très, très important. Du point de vue narratif. Et puis après, vous allez découvrir des acteurs déments, des acteurs russes. Alexei, qui est un grand, grand acteur russe. Mais il y a une intensité dedans, et puis l'ambiance, et puis même tous les figurants, tous les gens qui ont joué dedans, il y a vraiment une puissance slave dedans qui fout les jetons.
La barrière de la langue dans les tournages, quand vous parlez à Prague, etc., avec des comédiens qui sont russes.
C'est un pied complet. Déjà, dès qu'on se voit, déjà, on arrive à se capter.
Ouais.
Et quand on commence à jouer, il n'y a pas de barrière de langue. C'est ça qui est formidable. C'est comme les danseurs ou comme les musiciens. C'est-à-dire que dès qu'on se met à jouer, on sent tout de suite l'excitation qu'on va avoir les uns avec les autres. Et après, ce qui est formidable, c'est de découvrir, par exemple, quand un type parle tchèque, on essaie de savoir à quel moment il va s'arrêter, à quel moment on va intervenir. Si on doit soi-même parler en russe. Enfin voilà, on a joué dans pas mal de langues, on joue en anglais assez souvent, donc c'est assez drôle parce qu'il y a un moment où on parle anglais avec Wilson, avec Lambert, et on est obligé, et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans Big Moustache. You are French? Yes, I am French. So, where you speak in English? I don't understand.
Are you Big Moustache?
You are Big Moustache.
On parlait tout à l'heure de la vérité, si je mens, ce qui est rigolo avec ce film, c'est que si on revient sur votre bio, cher José, vous faisiez nulle part ailleurs, ça cartonnait avec Antoine. Et vous avez arrêté Canal pour justement embrasser la carrière d'acteur et faire la vérité si je mens.
Oui, j'ai terminé tranquillement Canal, je continue à faire 2-3 petites choses. Et puis à un moment, j'ai repris surtout ma carrière qui était la première, parce que moi je venais du théâtre.
Bah bien sûr.
Tout le monde croit que je faisais chauffeur de salle.
En fait, c'est que vous avez commencé à faire chauffeur de salle pour pouvoir bouffer un peu, mais vous étiez acteur et comédien.
Et donc voilà, le coup de bol, c'est à ce moment-là que la vérité si je mens est arrivée. Ouais.
Serge Benhamou, ça n'a pas été un truc trop lourd à porter après? Parce que c'est pas un truc qui, aujourd'hui, des fois, est un peu...
Ça a été costaud.
Ouais,
ça a été très costaud. Mais avec une telle envie, une telle joie. Mais il y avait des mecs qui me criaient « Yalla !» Quelquefois, j'ai pris des coups de panique. Les mecs freinaient à côté de moi et faisaient « Champion du monde !» Les mecs hurlaient dans des trucs. Ça a été apocalyptique. Il y a des moments, une fois, je suis sorti, c'était pour la vérité, si je m'en deux, on était en pleine promo. Et j'étais dans un quartier du 16e assez chargé en gens qui faisaient des courses et machin. Et la rue entière s'est arrêtée et s'est retournée et m'a regardé. Et j'étais avec un caddie, c'était pourri, avec un caddie pour aller faire des courses, dans une intimité totale. Et j'ai fait semblant un truc vraiment très mal joué. J'ai regardé ma montre, j'ai fait « Ah merde, j'ai oublié quelque chose ». Et je suis allé me foutre dans la cave et je suis resté pendant une heure dans la cave sans bouger, de l'agoraphobie.
Ça a été un succès tellement énorme. 5 millions d'entrées, on disait, c'est un truc de fou. Puisque vous venez pour nous parler de Totem où vous êtes agent secret, on s'est dit, mais à un autre moment de sa vie, peut-être qu'il aurait pu l'interpréter. Et on est revenu forcément à La Vérité si je mens. Et on s'est dit, et forcément Serge Benhamou. À l'époque de La Vérité si je mens, il y avait James Bond. Voici en exclusivité pour RTL et pour la dernière fois, la bande-annonce de GoldenEye, si je mens.
Bonsoir 007.
Moi c'est Serge Benamou.
Le Premier ministre veut qu'on fasse le point.
J'ai une journée de ouf aujourd'hui.
Le premier nom sur la liste est un de vos vieux amis, je crois.
Patrick.
Il se considère comme le futur homme de fer de Russie.
Tu sais combien il facture le sandwich merguez?
J'ai lu le rapport.
18 francs. 18 francs un bout de pain assis comme ça avec une saucisse.
Vous, qu'en dites-vous?
Il se fait 17 francs 60 de bénéfices par sandwich.
C'est pour cela que nos politologues l'ont carrément biffé.
Ce mec-là, il a planté tout le sentier. Rien qu'à moi, il me doit 12 bâtons.
Je ne veux surtout pas que vous vous livriez à une vendetta.
Attends, ça va, tu me prends pour qui?
Moi, je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure.
C'est une blague.
Une relique de la guerre froide.
Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon.
Stoppez tout.
J'ai rien fait.
Vous me prenez pour un grouillot.
Mais pas du tout.
Une petite guichetière, plus intéressée par ses bilans que par votre flair.
J'ai jamais vu une nana qui bouffe cachère et qui fait des saloperies pareilles, sans déconner.
Vous disiez?
Maman.
Je veux que vous retrouviez GoldenEye.
Ah bah attends, je consulte mon planning. Hein. La vérité, si je mens.
GoldenEye, si je mens, que vous ne verrez jamais sur vos écrans.
Bah, j'ai l'impression que si la place est libre pour le prochain...
Là, on a besoin d'un nouveau James Bond. On va tout de suite faire suivre à Barbara Broccoli. Je pense qu'elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose.
Ah bah, il y a un vrai truc. Hein.
C'est bien simple. Depuis que je fais écouter le Bon Dimanche Show à mon chien, il a le poil plus lisse. Il sait compter jusqu'à 27 et il parle 4 langues.
Là, je sens la piste à toi, je suis mis, pas chaud.
Le Bon Dimanche Show, c'est sur RTL.
Sheila fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Sheila sur scène. Mais c'est pas possible, il y a une faute de frappe quand même.
Il y a une faute
60e anniversaire de carrière, c'est pas possible. La personne que je reçois aujourd'hui n'a pas 60 ans, comme elle pourrait être depuis 60 ans sur scène. Vous êtes sensible aux critiques ou pas, Sheila?
Bon, ça dépend de qui elles viennent. Parce que les critiques, tu sais, moi j'ai passé ma vie... Tu sais, c'est difficile de vivre sur le regard des autres, hein, mais... voilà, il y a des critiques qui me touchent, il y en a d'autres, je m'en fous, quoi.
Bon, dans quelques instants, vous aurez, et on le fait avec chaque invité, le moment des critiques du web. Je vous rassure tout de suite, ce sont des critiques qui font marrer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est pour ça qu'on les choisit. Ouais. Et là, en fait, j'aimerais plutôt m'excuser pour le questionnaire qui arrive maintenant.
Alors,
le Sheila, je sais pas là, c'est pas compliqué, c'est un quiz. Je vous donne des situations.
Ouais.
Si on peut vous y trouver, vous dites Sheila.
Ouais.
Je donne un endroit, vous dites bah là, oui, Sheila. Et si vraiment il y a peu de chances qu'on vous voit dans cet endroit-là, vous dites je sais pas là.
D'accord. Ok. Ah d'accord.
Ok. Sheila ou je sais pas là.
Ah, non mais voilà. Bah, d'accord.
Un cours d'aquagym.
Ah Sheila.
Ok. Une boîte de nuit à Saint-Tropez.
Sheila de temps en temps.
Ok. Une brocante le dimanche.
Alors je sais pas là.
Un restaurant vegan.
Bah une fois comme ça, mais c'est plutôt pas là.
Ouais. Un concours de pole dance.
Alors j'aurais pu. Mais c'est pas là pour le moment, parce que j'ai quand même une jambe en bois, hein, là, à propos
de... Oui, alors c'est vrai que vous avez eu un petit pépin de vélo en début d'année, ça va mieux, là.
C'est un peu... Ça va mieux, je suis pas encore au grand écart, mais je vais y arriver.
Un meeting politique, chez là ou chez pas là?
Ah ben non, je suis pas là.
Une manifestation pour le climat, chez là ou chez pas là?
Ah, chez là.
Le métro?
Ah ben, je suis pas là depuis 60 ans. Hein.
Une cellule de dégrisement? Ça sent l'anecdote qui arrive. Moi aussi, attends, bouge
non,
pas, je me souviens d'un bail
déjà,
sombre.
Je ne vois pas et je me suis. Disons que j'aurais pu à certains moments, mais non.
D'accord. Chez un tatoueur?
Ah, je sais pas là.
Jamais attiré?
Non, parce que c'est comme tout le monde. Moi, je fais jamais comme tout le monde.
J'adore.
Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
Amir fait son Bon Dimanche Show sur RTL, sélectionné à partir du 26 avril. Ça se joue au théâtre Édouard VII, l'incroyable histoire du nageur d'Auschwitz, Alfred Nakache. L'histoire est assez folle et on l'apprend en voyant votre seule en scène. C'est qu'en fait, il est déporté sur dénonciation.
Oui.
Et en fait, il est dénoncé par des nageurs qu'il avait battus.
Absolument. La rage, la jalousie ont amené ces gens à faire l'inacceptable et à le dénoncer. Et après, il y a un truc qui me trouble particulièrement, c'est de me dire, cet homme est connu, il représente la France, il a une femme et un enfant de 3 ans. Aujourd'hui, je peux dire que je suis connu, que j'ai une femme et un enfant de 3 ans, sauf que lui, à son époque, à l'apogée de sa gloire, on était capable de venir frapper à sa porte
et de l'emmener.
Des flics. De l'emmener dans un camp de transit, et puis de là, évidemment, qu'ils savent que la suite, c'est les trains vers la Pologne et les chambres à gaz. Et là, je me dis, mais à quel point le monde, et j'espère, a changé pour qu'une chose pareille aurait pu se produire à l'époque. Évidemment que je ne parle pas de la... de reste des atrocités. Là, je parle simplement d'Alfred Nakache, du point dans sa vie où il se retrouvait, parce qu'on a une fausse idée de protection quand on est connu, quand les gens dans la rue nous saluent et nous aiment. Mais finalement, tout ça devient futilité quand il y a quelque chose qui est bien plus grand et bien plus violent dans le contexte. Et quelque part, ça m'a permis de m'identifier à lui davantage et de comprendre l'injustice profonde de ce qu'il a vécu et aussi le courage qu'il a eu de revenir plus fort après tous ces événements et en perdant toute sa famille dans la guerre.
Alors, dans ce processus d'identification, je pense que le fait de rencontrer sa famille, ça vous a aidé aussi un peu, puisque vous avez, avant de monter sur scène et en préparant ce seul en scène, rencontré la famille d'Alfred Nakache.
Absolument. J'ai trouvé ça d'une grande importance. Déjà parce que ce n'est pas un personnage de fiction. Hein. Ce n'est même pas un Charlemagne ou une personnalité ayant vécu il y a des centaines d'années. C'est carrément quelqu'un qui a côtoyé des gens qui vivent encore parmi nous, qui a des membres de sa famille qui vivent encore parmi nous. Et je me suis dit, par respect pour sa mémoire et pour sa famille, la moindre des choses, c'est d'aller vérifier si le texte que je vais raconter, en l'incarnant moi-même, donc en portant la responsabilité de ce que je vais dire, est approuvé par sa famille. Donc on est évidemment passé par cette étape qui est extrêmement enrichissante et qui, moi, m'a amené à poser des questions qui n'apparaissent peut-être pas dans la pièce, mais qui m'ont beaucoup aidé à cerner le personnage. Qu'est-ce qu'il aimait faire? Quelles ont été ses vannes? Qu'est-ce qu'il mangeait? Comment est-ce qu'il s'adressait à vous? Où est-ce qu'il vous emmenait? C'était des points qui humanisent davantage le personnage d'Alfred Nakache, que j'ai connu au travers des grandes étapes de son histoire seulement, jusque-là, et qui m'ont permis de monter sur scène avec beaucoup plus de confiance et en sachant aussi que les membres de sa famille qui sont dans l'audience ont dit la vérité.
Vous avez besoin de cette approbation pour faire le spectacle?
J'avais besoin de beaucoup de choses pour faire du spectacle. Au-delà des efforts à fournir pour apprendre un texte, pour m'initier à cet exercice qui était tout à fait nouveau pour moi, je suis allé nager, me disant que ça m'aidait ou pas, en tout cas ça va pas me faire de mal, mais j'ai envie de savoir ce que ressent un nageur, et donc j'ai nagé avec un champion de natation de manière quotidienne. J'ai insisté à apprendre la brasse papillon, qui est une nage très très difficile, mais la spécialité d'Alfred Nakache, jusqu'à un moment où c'est devenu vraiment la nage que je faisais tous les jours, et j'ai appris mon texte en étant sous l'eau. Enfin, beaucoup beaucoup de choses qui d'un point de vue sensoriel m'ont rapproché et m'ont rassuré dans ce nouveau défi. On a rencontré la famille, j'ai lu un maximum d'articles, j'ai regardé les vidéos. J'essaie de me documenter au mieux possible parce que je me suis dit que c'était très important, surtout que j'ai tout approuvé encore et je voulais bien faire les choses.
Et à l'issue du spectacle, la famille vous a dit quoi?
Alors, il y a eu beaucoup de témoignages extrêmement positifs, mais celui qui m'a le plus marqué de tous et était complètement inattendu, c'est quand on m'a dit, à l'issue d'une avant-première, que sa sœur, Edith, était dans l'audience. Elle a 94 ans, sa sœur. Et là, je m'attendais vraiment à tout, parce que ça aurait pu être très, très décevant pour elle, comme pièce. Et donc, elle a demandé à me voir. Alors, j'y vais immédiatement après être descendue de scène. Et elle me prend dans ses bras et elle me dit: j'avais l'impression de voir Alfred ce soir sur scène. Et là, ça valait tout l'or du monde. Pour moi, le projet réussi et tout le reste ne sera que du bonus.
Ça se joue à partir du 26 avril 2022. Alors, ça va se jouer au théâtre Édouard VII, mais il n'y a que quelques dates pour l'instant de prévues.
On fait 20 dates, parce qu'après, j'ai évidemment mes engagements de chanteur aussi.
Évidemment, bah oui.
Et j'ai une tournée qui s'est préparée depuis très longtemps et qu'on va assurer pleinement jusqu'à la fin de l'année. Mais on va jouer pendant un mois et demi la pièce de théâtre. Il y a 20 représentations. Après, c'est la musique et on reviendra jouer le théâtre en 2023, évidemment, dans toute la France. Là, pour l'instant, ça démarre que à Paris et on verra.
T'as prévu de revenir dans la dentisterie au moment où on se parle?
Non, non, pas tout de suite. Mais d'ailleurs, je voulais poser une question parce qu'il y a beaucoup d'allusions à la santé bucco-dentaire dans les...
Oui, oui.
Mais c'est fait pas par rapport à moi, c'est ce
pas
que
vous
dites
à chaque fois. Pas du tout, c'est un jingle qui passe d'habitude.
Alors, en fait leur rêve, c'était de me recevoir, c'est ça?
Non, non, ça passe d'habitude.
Ça a été fait pour que je vous remarque.
Non, mais... Moi, je rêvais d'avoir un jour quelqu'un qui a fait des études pour être dentiste et qui pourrait être dentiste, parce que moi, les dentistes, ils ont un super pouvoir.
C'est quoi?
Ils ont un super pouvoir qui est génial et je salue mon dentiste qui m'écoute sans doute. Ce pouvoir, c'est vous poser des questions auxquelles vous répondez. Mec, il dit: alors, t'as passé de bonnes vacances? Elle dit: ouais, mais c'est normal, il fait toujours un peu froid là-bas. Et je me dis, il n'y a que les dentistes qui peuvent faire ça, et c'est pour ça que nous avons décidé de vous poser quelques questions en mode dentiste. Et pour ce faire, j'ai récupéré chez mon dentiste un écarteur.
Ça, c'est énorme, hein, derrière.
Oui, alors, on a fait une photo en montagne.
Ah, je sais.
Comme si vous étiez en train de faire une analyse de mon hygiène bucco-dentaire. À dire ça, vous comprenez tout ce que je veux dire.
Ouais, je comprends tout ce que vous dites, ouais.
C'était ça. Ils ont un super pouvoir, les dentistes. Oui, monter sur scène, Amir, c'est quelque chose qui vous a attiré depuis longtemps.
Oui, depuis l'enfance, hein, depuis toujours. C'était mon souhait absolu.
D'accord. Et maintenant que vous avez goûté aux flanches, le feu, il faut savoir que le feu, c'est le plus difficile aux flanches. Pour quel projet pourriez-vous réendosser le rôle de comédien?
Pour quel projet pourrais-je réendosser le rôle de comédien? Je dirais... pour tous les projets qui me procurent une émotion profonde, je me positionne avant tout en tant que spectateur. Mmh. Je lis. Et si le spectateur qui est en moi a les frissons, je prends.
Je sais que vous êtes fan. Est-ce que vous aimeriez une carrière à la Patrick, à la Patrick Bruel, qui jongle très bien entre le rôle d'acteur et celui de chanteur?
Je me souhaite, oui. Ouais. C'est un très bon exemple.
Est-ce que, avant de monter sur scène, vous avez eu le même track pour la pièce que pour un concert?
Non, à ce stade, comme c'est vraiment incomparable, l'expérience que j'ai de la musique est bien, bien, bien plus longue. Et donc, forcément, quand je fais du théâtre, j'ai encore beaucoup plus de trac et j'espère assurer. Il y a vraiment une part d'inconnu et un truc que je ne maîtrise pas encore pleinement et qui aussi me donne une forte excitation quand je suis sur scène et qui m'éveille, qui me titille, qui me met à fond, quoi. Donc, c'est peut-être un peu plus dur émotionnellement, mais beaucoup plus grisant. Et à la fin, je sors lessivé d'une pièce, je suis vraiment fini. Et je suis très fier d'en avoir fait encore une, quoi.
C'est parfait. Enfin, c'était parfait. Ouais. Pas facile, hein, pas facile. Mais je vous dis, les dentistes ont un super pouvoir. Amir a le pouvoir de passer ce dimanche après-midi avec nous.
Bravo,
et ça, je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure nouvelle de la journée.